Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Grace Touch. Donc c'est l'épisode numéro 2 de la deuxième saison. C'est NJ Mvondo qui vous parle et je suis avec
Coco. Bienvenue sur Grace Touch. Nous sommes ravis d'être encore une fois avec vous. Alors quoi de neuf, ma chère sœur?
Eh bien, je suis en train de me poser des questions sur le pas prochain que je dois prendre.
Oui, est-ce que tu peux expliquer un peu plus, s'il te plaît?
Bon, toi et moi, on a parlé de la manière dont on a commencé l'année en se préparant dans le jeûne et dans la prière.
Mm-hmm.
Donc, le Seigneur a été bon, il a parlé à nos cœurs, il a accordé des révélations, on a des directions par rapport au focus qu'on doit avoir, la concentration qu'on doit avoir, la direction que l'on doit prendre pour cette année.
Oui.
Mais maintenant, je me demande, ok, tout ça, c'est très bien. Je commence où et comment? Quelle stratégie?
Quelle stratégie? Ah oui, d'accord. Est-ce que tu as un élément de réponse alors?
Peut-être.
Ok, on écoute.
Non, en fait, aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on lise ensemble dans Josué, chapitre 6, à partir du verset 1. Donc,
Ok.
du verset 1 à 11.
Oui.
Je trouve que le peuple d'Israël était dans la même situation, dans le sens où le Seigneur les a sortis d'Égypte, donc d'une terre où ils étaient enchaînés, d'une terre où ils étaient esclaves, d'une terre où ils étaient exploités, d'une terre où, tant qu'ils y vivaient, ils ne pouvaient pas imaginer un futur différent, avec des possibilités et de liberté, et d'expansion, et simplement de bonheur. Donc Dieu est intervenu,
Oui.
les a arrachés de cet endroit,
Oui.
s'est révélé personnellement à eux,
Oui.
leur a donné, comme pendant notre moment de jeûne, et c'est la même expérience pour beaucoup de chrétiens au début de l'année, quand ils jeûnent et prient en accord avec l'Église aussi, Dieu s'est révélé à eux et leur a donné des instructions très précises.
OK.
Dans ce dont on est au courant, bien sûr, ce sont les 10 commandements et puis toutes les lois qu'on a dans l'Ancien Testament, mais vraiment, c'était aussi le Seigneur qui, dans leur disait, voici comment je voudrais que vous vivriez votre vie.
Ok.
Vous
Et
viviez
comment...
votre le français me passe.
Oui, vous vivez votre vie, ok. Mais comment ça s'applique alors à nous en 2020, alors
Justement,
que nous commençons l'année?
je trouve qu'il y a un parallèle intéressant parce que dans le Seigneur leur a donné toutes ces indications, mais ça ne s'arrêtait pas là. Après, eux, il fallait qu'ils se mettent en marche. Dieu leur a dit, bon, j'ai préparé une terre promise et tout pour vous, mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce que le Seigneur, soudainement, a envoyé des anges ou les a télétransportés dans leur terre promise? Il a fallu qu'ils
Et,
se mettent en chemin
pardon, j'ai loupé ça. Il a fallu.
il a fallu qu'ils se mettent en chemin.
Oui.
Et sur le pendant le chemin, il fallait qu'ils écoutent le Seigneur. Il y avait des directions, la colonne de fumée dans la journée, la colonne de feu dans la nuit. Et je trouve qu'il y a. Et puis, bon, une fois arrivé sur la terre promise, c'est bien, on est là où Dieu voulait que l'on soit. Maintenant, quoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Mais oui.
Et c'est là où je trouve qu'il y a un parallèle intéressant avec notre marche chrétienne, dans le sens où. Donc, souvent, et puis en début d'année, effectivement, le Seigneur peut-être nous donne un thème pour l'année. Peut-être qu'on lui a présenté ou des projets ou des problèmes ou des personnes. Et il a donné des éléments de réponse. Mais après, ça ne s'arrête pas là. Et je veux dire, on a du chemin à faire.
OK.
Et une fois qu'on est là où Dieu nous a appelés à être, il y a des actions à prendre. Donc, la question que je me posais, c'était quelle est la première action à poser? Comment est-ce qu'on sait quelle est cette action? Et encore une fois, d'où nous viennent ces éléments de réponse? Et je trouvais que Josué, justement, ce chapitre 6, verset 1 à 11, était très intéressant parce qu'encore une fois, on voit que le Seigneur parle au peuple et il leur donne mais, des instructions avec une précision incroyable. Et
Ah, alors là, oui.
en gros, il leur donne une stratégie.
OK.
Et c'est là où je me suis dit que peut-être que ce serait intéressant, donc ensemble, on réfléchisse par rapport à la stratégie à suivre en ce début d'année.
Très bien, très bien. Très bien.
Qu'est-ce
Tu
que
veux... Comment?
tu en penses?
Je crois que là, tu me donnes envie d'en savoir plus. Donc, est-ce que tu voudrais lire le passage? Je pense que je commenterai après.
Ok. Donc, on va faire ça. Je vais le lire et je vais avidement écouter tes paroles ensuite.
OK.
Donc, nous lisons dans le livre de Josué dans l'Ancien Testament, chapitre 6, à partir du verset 1.
OK.
Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Dieu agira ainsi pendant 6 jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que sept prêtres portent cette trompette retentissante. Puis il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous poussez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. C'est la fin du verset 11.
Ah, alors, tu voudrais que je réagisse maintenant?
Oui, hein, si tu es prête.
Est-ce que je serais vraiment prête? C'est-à-dire que on a déjà dit ces choses. Ce sont des choses que nous disons pratiquement à chaque épisode. Chaque fois qu'on relit un passage biblique, il semble que l'Esprit de Dieu, parce que c'est bien l'Esprit de Dieu qui enseigne, hein, met en lumière un autre aspect et encore un autre aspect, encore un autre aspect. Alors, cette histoire, c'est une histoire que je connais depuis longtemps. On connaît tous les histoires de la muraille de Jéricho. Mais là, d'un seul coup, ce qui ressort dans la lecture que tu viens de nous faire, merci pour cette lecture, c'est aucun son ne sortira de votre bouche.
Oui.
C'est fou parce que c'est le Dieu qui nous demande, qui nous enseigne. Il nous a créé à son image. Hein, on est OK? Il nous a créé à son image, on est d'accord. Et il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Dans le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, c'est qui est écrit l'épître de Paul aux Hébreux. Donc, il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas encore à l'existence. Il dit et elles deviennent. Il dit et elles apparaissent. Et il nous demande d'être comme lui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, étant les enfants de Dieu, de la nature de Dieu, en fait, hein, on a l'ADN de Christ. Christ précède Adam. Je parle de beaucoup de choses en même temps, là, mais essayez de me suivre, nos chers auditeurs. Christ précède Adam. Donc, on a l'ADN de Christ. Jusqu'ici, on suit. Alors, donc, on est de la même nature que Dieu dans le sens où on est fait à son image. Donc, comme lui, lorsque nous arrivons à la foi en Dieu à travers Christ, nous devons donc aligner notre mentalité, nos façons de voir les choses sur sa façon de voir les choses et appeler les choses qui ne sont pas encore à l'existence. Alors, le Dieu qui d'ordinaire dit ce que tu crois dans ton cœur et que tu dis dans ta bouche, n'est-ce pas, ça va se manifester. Tu dis au nom de Jésus-Christ, tu es guéri, reçois la guérison, etc. Mais là, il te dit de ne rien dire. Et il sait déjà qu'il va donner la victoire au peuple d'Israël sur cette ville. Mais il dit qu'aucun mot, aucun son ne sorte de vos bouches. Alors là, ça me parle. De deux manières. Déjà, je suis d'accord avec toi à 100%. Nous avons franchi le cap de la nouvelle année et nous attendons les instructions pour la suite. Donc oui, c'est bien de constater comment Dieu donne des instructions précises à suivre absolument. Justement parce qu'il est le Dieu de l'éternité et il sait ce qui va se passer. Il est hors du temps, il est intemporel. Donc quand il nous dit, faites quelque chose de cette manière, nous devons faire ce qu'il dit parce qu'il sait pourquoi il nous demande de le faire. Donc il y a cette demande d'obéissance qui ressort. Mais pourquoi ne pas prononcer un mot? Pourquoi ne pas, par exemple, on s'étonnerait avec l'intelligence humaine, notre façon de penser qu'on comprend tout mieux que Dieu lui-même, là. Naturellement, je me serais dit qu'ils vont courir, tu sais, sonner de la trompette, etc., taper des cymbales, etc., et crier, nous avons la victoire, nous avons la victoire. Mais non, Dieu dit pas un mot. Le moment où il demandera aux trompettes de sonner, etc., et au peuple de crier, tout ça, c'est un moment bien précis, préétabli. Donc, ça me parle beaucoup dans le sens de devenir comme un petit enfant. Que si Dieu dit qu'on fait une chose d'une certaine manière, je ne demande pas trop d'explications, hein, je peux, hein, Dieu ne nous empêche pas de demander des explications. Mais s'il ne m'en donne pas, ça va. Il me dit quoi faire, je le fais. Et nous connaissons la suite de l'histoire, le peuple d'Israël a obéi et ils ont eu la victoire. Alors, cela m'encourage, si je reçois des instructions de Dieu qui me semblent étranges ou inhabituelles, ça me conforte dans l'idée de croire que Dieu sait mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Et comme un petit enfant, de dire oui, papa, oui, père, tu as dit, je fais.
Amen.
C'est ce qui me c'est ce qui ressort aujourd'hui de la lecture de ce passage, quoi. C'est intéressant.
Merci.
Hein. Oui, tu disais?
Merci beaucoup, vraiment, ma soeur, pour ce partage. Hein. Ça me parle beaucoup, comme à chaque fois que tu partage avec nous comment la parole de Dieu te touche et comment elle t'encourage. J'ai envie de prendre vraiment un moment de silence pour réfléchir à tout ce que tu as dit. Mais en fait, ma prière quand je t'entends, c'est que le Seigneur m'aide à avoir cette foi d'enfant. Très simple.
Amen, moi aussi.
Quand j'entends sa voix, quand je sais que c'est lui qui a parlé, parce qu'il veut nous bénir. Il
Amen.
ne nous demande pas de faire telle ou telle chose, de poser telle ou telle action pour nous maudire, pour nous punir, parce qu'il veut nous voir souffrir. Pas du tout. Il ne dit pas que ça va être facile, mais il a vraiment à cœur le but derrière, c'est notre bénédiction.
Amen.
Et l'obéissance, comme dit la Bible, vaut mieux que les sacrifices.
Amen.
Lui fait vraiment plaisir, c'est pas que nous nous privions de tout pour lui faire plaisir, mais c'est que quand il parle, effectivement, qu'on l'écoute
Et qu'on
et qu'on dit
obéisse.
ça et qu'on soit en accord avec lui.
Amen.
Et ce qui me frappe, pareil, c'est pas la première fois que je lis ce texte, et à chaque fois, je suis frappée par le côté, l'aspect militaire des instructions qui sont données. C'est donc jusqu'au nombre de personnes, le nombre de prêtres, le nombre de fois ils doivent faire le tour de la ville,
Oui.
la manière dont ils doivent marcher, les instruments que les prêtres doivent avoir.
Oui.
Il y aurait beaucoup à comment dire, déchiffrer, comprendre dans ce texte. Je vais m'attarder sur les chiffres.
OK.
Il y a beaucoup de 6 et de 7.
Ah, OK.
Donc déjà, il y avait une forteresse. Jéricho, c'était un endroit fortement gardé.
Oui.
C'était une ville qui était entourée par des murs très hauts, très élevés, comme vraiment une tour imprenable. Et c'était la réputation de la ville. Pourtant, que je sache, je veux dire, c'était un endroit où tu ne te lèves pas de bon matin pour dire que tu vas aller t'emparer de cette ville. Et encore une fois, moi, ça me fait penser à nos obstacles
Oui.
dans notre vie, notre marche avec le Seigneur,
Oui.
à nos problèmes, à ce qui est un défi pour nous.
Oui.
Donc souvent, nous nous tenons devant des situations qui semblent sans issue. On s'est dit, mais Seigneur, là, c'est tellement lourd, c'est tellement grave, je ne sais pas comment, je ne vois pas comment ça va être résolu.
Oui.
Parfois, nous avons des tâches à accomplir et c'est le même sentiment.
Oui.
où on peut se sentir submergé. Et Jéricho me fait penser à ça. Et ce qui m'impressionne, c'est ce que dit le Seigneur. Parce que Dieu est Dieu, il peut tout faire à n'importe quel moment.
Oui.
Il peut, en un instant, en juste une nanoseconde, il aurait pu abattre la ville, les Israéliens n'auraient pas eu à lutter, ou il aurait pu leur donner la victoire aussitôt.
Tout à fait.
Il aurait pu dire, allez-y, frappez à la porte et tout va s'écrouler.
Oui.
Il n'a pas agi comme ça. Au contraire, il leur a fait comprendre, ça va prendre 7 jours.
Oui.
Pour moi, ce 7, c'est un chiffre très symbolique parce que immédiatement, ça me fait penser au fait qu'il ait créé le ciel et la terre en 7 jours.
Eh oui.
Et donc, pour moi, quand je vois ce chiffre 7, il dit, voilà où je veux que vous alliez, voilà ce qui va se passer, ce qui semble impossible va se produire et ça prendra 7 jours. Moi, ce qui est, pendant 7 jours, Dieu leur donne des instructions précises. Vous y allez, vous faites le tour. Vous sonnez de la trompette une fois. Et moi, ça me fait penser à la prière. Donc, faire le tour du problème, on le fait quand on marche avec le Seigneur, on le fait devant lui, avec lui. On vient devant sa face, on prie, on lui dit, OK, voilà ce qui se passe. Mm-hmm. Je sais que tu n'as pas oublié, etc. Il dit, vous le faites une fois.
Mm-hmm.
Et le 7 jours, moi, ça me fait penser au temps où il a créé, qu'il a pris pour créer quelque chose de nouveau.
Oui, oui.
Donc, notre situation personnelle,
oui.
Ce qu'on lit dans la Bible concernant la ville de Jéricho,
oui.
Pour moi, le Seigneur, à travers ça, est en train de nous dire, je suis en train de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que tu aimerais avoir la solution tout de suite,
oui.
Mais je vais te demander d'être patient parce que pendant que tu fais ce que je te demande de faire,
oui.
Je suis en train de créer quelque chose de nouveau. Je vais établir de nouvelles fondations.
Oui.
Je vais créer une situation qui n'existait pas auparavant.
Oui.
Je vais te
mettre
dans une position dans laquelle tu n'as jamais
été. Oui, oui, oui.
Voilà. Oui. Et ce qui est aussi qui me frappe vraiment beaucoup, c'est le fait qu'il y avait et les hommes de guerre.
Oui.
Donc, pour moi, ça me parle de bataille spirituelle,
oui.
Par rapport à notre marche avec le Seigneur.
Mm-hmm.
Le fait où il nous demande, il veut que nous nous rappelions que notre marche avec lui, ce n'est pas une promenade dans le parc, hein,
non.
Tout le temps.
Non.
Mais il faut aussi qu'on soit prêt à porter les armes. Il faut qu'on soit prêt à aller au combat. Il faut qu'on soit prêt à aller au front.
Oui.
Et il ne demande pas d'y aller tout seul. Il n'a pas envoyé Josué tout seul.
Oui.
Il a demandé à un groupe d'hommes de le faire ensemble.
Oui.
Donc, l'encouragement pour moi derrière, c'est quel que soit l'obstacle, le problème ou la situation que nous essayons de résoudre ou que nous avons présenté au Seigneur, il faut qu'on écoute la voix du Seigneur et ce qu'il nous dit. Dans le cas de Jésus, il a dit, prends tel et tel homme et prends les prêtres.
Amen.
Dans prendre les hommes de guerre, pour moi, ça veut dire, ne va pas seul. Si tu as besoin de support, vois qui peut aller au combat avec toi.
Oui.
Dans le cas de notre marche chrétienne, qui peut combattre dans la prière avec toi?
Oui.
Qui peut faire le cercle de ton problème?
Mmh.
Une fois par jour avec toi.
Oui.
Mais il ne s'est pas arrêté là.
Ouais.
Il a dit, prenez l'arche de l'Alliance avec vous. L'arche de l'Alliance, à cette époque, à cette période de la Bible, symbolisait d'une manière très tangible et très visible la présence de Dieu.
Amen.
C'était aussi un rappel au peuple pour leur dire, je suis au milieu de vous.
Amen.
Je suis là et ma puissance est là. Pourquoi je dis ma puissance est là? Parce qu'il y avait des instructions très claires. Il n'y avait que des personnes précises qui pouvaient porter l'arche. Si quelqu'un d'autre essayait de toucher l'arche, la personne mourrait net.
Oui.
Et c'était une manière pour Dieu de rappeler que sa sainteté n'est pas accessible à tout le monde. Il n'est pas n'importe qui, mais aussi de rappeler qu'il est puissant et sa puissance siégeait au milieu d'Israël.
Amen.
Et quand on est dans le Seigneur, quand on a donné sa vie au Seigneur, on reçoit son Esprit Saint.
Amen.
Jésus a dit le dernier verset de l'évangile de Matthieu, je suis avec vous tous les jours. Dieu nous rappelle, ma présence est en toi. Je suis avec toi à chaque instant. Donc, quand tu vas au combat, quand tu attaques le problème que tu veux résoudre, avec lequel tu te bats, souviens-toi que je suis là.
Okay.
Je suis au milieu de toi.
Mm-hmm.
Mais ça ne s'arrête pas là. Il a dit, amène les prêtres avec toi, prends 7 prêtres.
Oui.
Et qu'il souffle
de la trompette.
Mm-hmm. Mais c'est l'aspect spirituel du combat qui, encore une fois, me frappe ici.
Oui.
Parce que les prêtres, donc, c'était les leaders spirituels
oui.
du peuple d'Israël.
Oui.
Donc, Moi, la question, ce qui m'interpelle, c'est mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si en ce moment, il y a une situation qui vous turlupine, mais qui vous vraiment vous fait que vous vous sentiez ou écrasé ou dépassé, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Est-ce que vous êtes allé demander le secours de vos frères et sœurs dans la foi afin qu'ils combattent avec vous dans la prière? Et deuxièmement, est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur de parler à quelqu'un, un leader de votre église? Ça peut être votre celui qui comment dire, gère le groupe, votre groupe d'études bibliques, celui qui vous enseigne. Et encore une fois, j'insiste bien, c'est dans le cas précis, le Seigneur leur avait mis cela à cœur. Il leur a donné une instruction très précise. Il faut qu'il y ait des prêtres. Maintenant, concernant votre situation, bon, la question, elle est très simple. La question que je me pose aussi à moi-même, c'est si le Seigneur m'a dit, OK, il faut, je ne sais pas, dans ce cas précis, ça peut être soit effectivement parler à quelqu'un qui est votre pasteur ou autre, ou ça peut être en relation avec votre, le service dans l'église. Ou donc c'est quelque chose, j'ai pas de réponse précise, hein, chaque situation est différente, mais leur présence est quelque chose qui m'interpelle parce que a priori quand je pense à la guerre et que je pense ok prendre une ville d'assaut, je ne pense pas amener, je ne pense pas que des prêtres soient nécessaires. Donc je pense que là, le Seigneur nous interpelle et par rapport à la trompette aussi, c'est, je sais que la trompette dans les périodes de guerre peut être utilisée comme un instrument de ralliement, mais c'est aussi un instrument de louange. Et ce qui m'encourage dans ce passage, c'est même quand on est en train de prier ou qu'on est en train d'encercler ce problème, de continuer de louer le Seigneur. C'est un encouragement que je prends aussi par rapport à ça. Et quand on lit plus loin dans le texte, on voit aussi que, d'après aussi le compte-rendu de la prostituée Rahab, quand entendu rien que la rumeur du peuple d'Israël qui venait parce qu'ils savaient, ils avaient entendu les miracles que Dieu avait opérés. Déjà, ils tremblaient de peur. Donc, rien que si déjà la rumeur, ils tremblaient de peur, essayons d'imaginer quel a été leur émoi et leur panique quand ils ont entendu les trompettes.
Ça.
Donc, pour moi, encore l'encouragement derrière, c'est il y a de la puissance dans la louange.
Amen.
Dans le fait de, parce que notre combat n'est pas juste un combat physique. La Bible nous dit très clairement qu'on lutte contre les dénominations, les autorités, les puissances, les princes dans les lieux spirituels. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Et donc, je me dis, c'est pareil, quand on sonne de la trompette, quand on prie, quand on loue le Seigneur, même au milieu de nous-mêmes, je pense que ça secoue quelque chose dans le camp de l'ennemi.
C'est très intéressant. Quand tu parlais de 7 jours, quelque chose m'est venu à cœur. Alors, Dieu peut créer, il aurait pu créer l'univers en une seconde. Lui, il n'avait absolument pas besoin de le faire en 6 jours et prendre un jour de repos. Donc, à mon humble avis, et mes chères auditrices, auditeurs, et toi, ma sœur, sentez-vous libre de répondre directement pour toi ou plus tard pour les autres. Il pouvait le faire. Donc, la raison pour laquelle, à mon avis, il a étalé ces choses sur une période de 6 jours, plus une journée de repos, c'était pour que ça serve de modèle pour notre comportement. Hein? Donc, je suis d'accord avec toi pour le parallèle que tu tires de ce qui s'est passé, de ces instructions et l'application dans notre vie de maintenant. Mais quand tu parlais des 7 jours, quelque chose d'autre s'est produit. Dans ma tête, j'ai commencé à comprendre, et je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit qui révèle ces choses, que, en fait, ce que Dieu était en train de créer, quand tu as dit, je fais une chose nouvelle. Chaque jour venait une fois, je suis en train de faire une nouvelle chose, je vais faire les choses différemment. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de le faire vite. C'est pour que l'état d'esprit du peuple d'Israël, qui sortait d'Égypte, qui sortait de l'esclavage, puisse être réformé. Que leur, ce qu'on appelle en anglais belief system, pas un système de valeurs, mais en quelque sorte, une mauvaise traduction serait un système de croyances. Ce en quoi ils croyaient, les choses qu'ils croyaient accessibles, pour qu'ils aient le temps de croire que Dieu peut les délivrer. On parle souvent de ces animaux en cage, les animaux qui sont nés dans les zoos. Il paraît que pour certains d'entre eux, quand on ouvre la cage, ils ne sortent pas. La cage est ouverte, hein, mais n'ayant pas connu la liberté, il ne leur vient pas à l'esprit de sortir. Il faut littéralement aller les chercher. Et souvent, si les animaux dans ce zoo où ils ont grandi étaient punis parce qu'ils avaient essayé de s'échapper. Ils ont peur et il faut maintenant les tirer de force. Eh bien, similairement, bon nombre de ces enfants d'Israël qui sont venus à Jéricho étaient nés en esclavage, puisque Israël est resté, je dirais tous, puisque Israël est resté 400 ans là-bas. Donc, c'est une génération qui n'a jamais connu la liberté. Donc, pour qu'ils aient le temps d'envisager qu'il y a un autre avenir pour eux que l'esclavage, Dieu utilise ces 7 jours. C'est pour un changement de perspective. Et à mesure qu'ils viennent chaque jour, n'est-ce pas, la foi augmente. La foi augmente.
Oui.
Et quand cette foi est arrivée, quand la coupe est pleine, pour utiliser du langage biblique, Dieu dit, OK, maintenant, allez faire le tour X nombre de fois. Et sonner de la trompette et crier. Et les murailles tombent. Parce que Dieu ne répond pas aux doutes. Il ne répond pas favorablement aux doutes. Hein. La parole le dit. Si vous croyez que vous allez être exaucé quand vous doutez, vous vous trompez. Dieu répond à la foi. Donc il attend, dans son infinie bonté, miséricorde et patience envers nous, il attend que nos doutes disparaissent, que l'espérance monte en nous, jusqu'à ce qu'on arrive à cette mesure de foi qui nous permet de dire, OK. Je crois que Dieu peut le faire. Je crois que Dieu peut le faire. Et c'est là où il dit OK. Parce qu'il s'y connaît, il connaît son, ses enfants. Il savait que
Oui.
chaque jour, une mesure supplémentaire de foi allait leur être ajoutée. L'espérance allait grandir. Et le
Amen.
septième jour, poum, c'est le moment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça m'est vraiment venu à l'esprit quand tu parlais de ces 7 jours. Et je crois que c'est quelque chose. Et pour la nouvelle année, je me dis que nous devons nous positionner, comme tu as dit, que ce soit par la prière, par la louange, par. En demandant à des frères et sœurs de prier pour nous, etc. S'il y a peut-être des personnes qui sont des mentors ou des pasteurs, hein, chacun a une façon de fonctionner qui est différente. Se tourner vers quelqu'un ou la parole ou un album de louange, je ne sais pas, ce qui vous encourage, quoi, pour que notre foi puisse être fortifiée, pour que nous puissions être dans un état d'esprit qui nous positionne comme il faut pour entrer dans les nouvelles choses que Dieu a préparées pour la nouvelle année. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. C'est quand tu as commencé à parler des 7 jours, c'est ce qui m'est venu à l'esprit.
Ça semble très logique pour moi.
Oui.
Et vraiment c'est un angle auquel je n'avais pas pensé, la réformation du mode de pensée. Le fait que souvent, quand le Seigneur, on a l'impression qu'il prend son temps
Oui.
pour quelque chose, c'est pas parce qu'il a besoin de temps,
Non.
mais c'est aussi à cause du travail qu'il fait en nous,
Amen.
la manière dont il est en train de déguiser notre foi, comme tu as
Amen.
cité.
Amen. Amen.
Oh, merci beaucoup, cher Coco, pour ce partage qui personnellement m'a vivifié, m'encourage beaucoup.
Moi de même, hein. Moi de même. Et nous vous suggérons, auditrices et auditeurs, de vous tourner vers le Seigneur et voir comment, quelles sont les prochaines étapes pratiques. J'entends. Dans mon esprit, certaines dire sont bien gentilles toutes les deux. Oui, en principe, je suis d'accord. Mais par rapport à, je ne sais pas, l'entreprise que je veux monter ou ce tel projet ou tel autre projet, sur le plan pratique, je fais comment? Demander au Seigneur. Il vous répondra. Qu'est-ce que tu en penses, Angie?
Je pense à ce verset où la Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est dans Jérémie chapitre 33.
Au verset 3. Et où il nous révèle, il promet de nous révéler les choses cachées.
Voilà.
Toi, tu es en train de faire un projet en ce moment. Et je sais que le Seigneur t'a donné des directives créatives très précises
Oui,
sur comment faire les choses. Et je crois que parfois,
effectivement.
nous avons tendance à penser que Dieu est abstrait. Dieu est extrêmement pratique.
Oh, non. Vraiment, non. C'est l'inventeur de l'esprit pratique. Que pouvons-nous dire?
Amen. Amen.
Oui. Non, effectivement, je témoigne du fait que quand on se tourne vers lui, quand on l'appelle, quand on prie, le Seigneur, vraiment, il répond.
Amen.
Et il répond de différentes manières. Hein.
Oui.
Donc, il peut nous parler, bien sûr, directement à travers les paroles de quelqu'un d'autre, même à travers un post qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Dieu n'est limité par rien quand il s'agit de communiquer avec nous.
Amen. Amen. Oh, c'est quelle merveille. Si tu veux conclure, je crois qu'à moins que tu aies autre chose à ajouter, hein, je serais ravi d'écouter.
Non.
Sinon, si tu veux conclure et peut-être prier pour nos auditrices et auditeurs, je crois que ce sera une excellente manière de terminer.
Avec plaisir, mes chers amis, prions. Inclinons-nous devant le Seigneur. Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions pour ta présence, nous te remercions pour ton amour et nous te remercions pour ta parole. Et Père, je prie pour que tu bénisses cette semaine pour tous ceux qui écoutent cette émission pour nous. Je prie pour que tu nous guides. Je prie pour que, comme nous l'avons lu dans ce passage, tu marches avec nous et au milieu de nous partout où nous allons. Que tu protèges le travail de nos mains. Que tu bénisses tous ceux qui nous sont chers.
Oui, Seigneur.
Et que tu nous aides à reconnaître ta voix, à recevoir tes instructions. Comme tu nous as enseigné dans la prière du Seigneur, que le Seigneur Jésus a partagé avec nous, je prie aussi pour que tu nous pardonnes nos péchés, nous purifies de nos iniquités. Là où nous avons fait du mal à quelqu'un, là où même nous sommes tombés dans le péché sans nous en rendre compte, sans en être conscients, je prie pour que tu nous pardonnes. Et Seigneur, par rapport aux obstacles auxquels nous faisons face cette semaine, par rapport aux Jéricho dans nos vies, tu nous dis que tu nous as déjà donné la victoire en toutes choses, car tu as dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ,
Amen.
Notre Seigneur et Sauveur, et Seigneur dont je te rends gloire pour cette victoire que nous avons déjà en toi. Et je prie que cette semaine, tu nous donnes de marcher de victoire en victoire, que tu aiguises notre foi, que tu nous rends patients là où nous avons besoin d'être patients,
Amen.
que tu enlèves tout esprit de peur, selon les instructions que tu as données à Josué. Et encore une fois, Seigneur, bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos ennemis. Bénis ceux qui nous ont chers. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Ah, merci, ma sœur. Mes bien-aimés, nous vous remercions. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour tout commentaire ou question ou point d'accord ou de désaccord. Hein. Nous apprenons ensemble et c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes et tous. Pour ma part, je suis ravie et fortifiée et fortement édifiée par ce message. Je vous bénis au nom du Seigneur. Passez une bonne semaine. Au revoir.
Au revoir.